RCF.
Bonjour, je suis Audrey Lincanel, première adjointe au maire de Lille, en charge de la transition écologique et du développement soutenable et également vice-présidente à la métropole européenne de Lille, en charge aussi du climat et de l'énergie.
Bonjour Audrey Lincanel, et je suis ravi de vous accueillir dans cette émission. Alors vous vous êtes prêté au jeu de nos échanges où vous allez vous laisser conduire par des questions que vous allez piocher devant cette boîte à questions. Elles sont parfois décalées, insolites, inattendues, mais tout va bien se passer. Si vous avez besoin d'un joker, n'hésitez pas. Et puis vous êtes venu les mains pleines pour nos auditeurs avec des éléments qui vous parlent de vous. Alors Audrey Lincanel, vous êtes alsacienne, mais devenue lilloise. Et après une double formation, d'une part économique à l'ESSEC, et une formation Sciences Po, plus pour le monde institutionnel et politique. Et vous avez toujours cherché à concilier les deux dans votre parcours professionnel. Alors votre itinéraire politique se précise un peu plus en 2001, ou dès 2001, où vous débarquez à la gare de Lille, et pour rejoindre Martine Aubry, qui est notre maire de Lille. Et vous avez connu la députation jeune, en 2012, à 39 ans. Alors vous êtes réputée pour être une bosseuse, pragmatique aussi. On vous prête aussi le titre de fille spirituelle de Martine Aubry, alors que rien ne vous prédestinait a priori à la vie politique. Alors j'ai envie de vous demander, Audrey, vous êtes en charge du développement soutenable à la mairie de Lille. Soutenable, c'est pas durable ça? Quelle différence?
Soutenable, c'est la terminologie qu'on choisit plutôt aujourd'hui, ouais. Et qui finalement, en français, fait plus clairement référence au fait que nos ressources sont limitées et que nous sommes pour le développement. Moi, je suis pour le progrès, pour le développement, pour une ville et une planète en mouvement, mais qui tiennent compte de cette limitation des ressources et que donc ce développement puisse tenir dans la durée. Voilà, là où le développement durable était peut-être à un moment donné une mauvaise traduction de l'idée qu'on cherchait à défendre, qui par ailleurs est une très belle idée, de faire coïncider à la fois les enjeux économiques, environnementaux et sociaux. La soutenabilité, c'est vraiment de se dire on continue à se développer. L'idée n'est pas d'être dans l'immobilisme, mais on tient compte dans ce développement des ressources limitées qui sont les nôtres et puis des capacités humaines aussi, parce que pour moi, le développement doit se faire dans le respect de la planète et de l'homme.
C'est ça, oui, quelque chose à la mesure de l'humain dans la durée.
Voilà.
Donc ce qui est soutenable. Je comprends bien, je comprends mieux. Oui. Alors justement, la transition écologique, c'est un sujet à plusieurs étages, de l'État jusqu'à la famille. Et vous, sur quoi vous avez pleinement la main pour faire bouger les choses? En d'autres termes, qu'est-ce que vous voudriez avoir accompli d'ici 2 ans ou la fin de votre mandature et qui se concrétise dans la vie du citoyen, de la cité ou de l'entreprise, concrètement?
Concrètement, nous nous sommes dotés à la métropole européenne de Lille et à la ville de Lille d'un plan climat qui se donne des objectifs qui sont des objectifs opérationnels et des objectifs quantitatifs avec une baisse des émissions de gaz à effet de serre que nous avons chiffrée de moins 45% d'ici 2030, par exemple. Je ne vais pas rentrer davantage dans les détails. Et on sait que pour atteindre cette réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut à la fois que les collectivités que nous sommes mettent en œuvre leur politique publique, et il se trouve que quand on est à l'échelle métropolitaine ou municipale, on a des politiques publiques structurantes qui permettent ça. Je pense au transport, par exemple, offrir plus de pistes cyclables, des espaces publics qui favorisent la marche à pied, ou évidemment des transports en commun attractifs. C'est évidemment un moyen de permettre aux gens de moins prendre leur voiture individuelle et donc de moins polluer, de moins émettre des gaz à effet de serre, et puis d'améliorer aussi la qualité de l'air. On a aussi dans nos compétences l'habitat, par exemple. Or, on sait que les maisons et les immeubles sont une source importante, là aussi, d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand on peut accompagner à la rénovation de ces maisons et de ces immeubles, on sait qu'on a là des leviers très importants. Donc, de notre côté, collectivité, c'est mettre en place ces politiques publiques. C'est notre rôle, avec des investissements importants. Mais surtout, ce qui m'importe, c'est qu'on puisse accompagner les changements de comportement, accompagner les passages à l'acte. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où finalement la plupart d'entre nous quand même ont pris conscience de l'urgence climatique, qu'ils ne contestent pas cette nécessité, mais qu'il faut accompagner chacun.
C'est ça, maintenant c'est accompagner.
À changer. Et changer, on sait tous que changer d'habitude, surtout quand elles sont mauvaises, que parfois elles nous plaisent, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et c'est donc ça aussi notre job. Comment on peut accompagner? Alors pour certains, changer d'habitude, ça veut dire avoir les moyens financiers qu'on n'a pas, mais c'est aussi culturel.
Alors une question peut-être un peu plus personnelle, et on est là aussi pour faire connaissance qui vous êtes derrière votre étiquette. Est-ce que la vie politique et l'engagement politique qui est le vôtre, est-ce que ces engagements-là, ça permet une vie familiale de surcroît quand on est une femme ou en tout cas, quelles limites vous arrivez à y mettre? On dit que c'est très énergétique, non plus que énergétivore, que ça prend énormément de temps, c'est vraiment un engagement fort. Voilà, comment vous arrivez à le gérer?
Écoutez, je crois que pour toutes les femmes qui veulent concilier une activité professionnelle, qu'elle soit politique ou autre, et qui veulent concilier une vie personnelle, c'est pas toujours simple. Objectivement, ça l'est probablement plus aujourd'hui que ça ne l'a été. Je pense à ma mère ou à mes grands-mères qui, elles aussi, avaient des activités professionnelles et c'était probablement plus dur pour elles que ça ne l'est pour moi. Le fait que mon activité soit principalement politique, car j'ai aussi une activité professionnelle en plus de mon activité politique, en rajoute peut-être, mais je dirais que c'est plutôt l'exposition que ça ajoute, et donc l'exposition de la personne publique en tout. Modestie et humilité que je suis, qui peut parfois rejaillir sur la vie privée plutôt que la question de la conciliation, qui après tout est la même pour toutes celles qui aiment leur travail, qui s'engagent et qui du coup font rarement les choses à moitié.
Et alors, est-ce que vous auriez un petit truc qui vous aide bien et qui pourrait être utile aux femmes auditrices qui nous écoutent et qui sont dans la grande activité, je dirais pas l'hyperactivité, mais non.
Je pense qu'il faut savoir jongler avec son agenda, donc c'est avoir un petit sens de l'organisation, être soutenu aussi par son entourage, ça compte. Important. Et quand on peut, c'est pas toujours possible, choisir évidemment quelque chose qui vous plaît, parce que quand ça vous plaît, que ça vous passionne, que vous y voyez de l'intérêt, c'est plus facile de faire ici ou là quelques sacrifices ou de jongler que quand évidemment ça vous pèse. Voilà. Tout le monde n'a pas cette chance.
Alors, je vous propose de continuer à aller à votre rencontre, faire connaissance, et là, par le biais de ces questions que vous allez tirer, donc je vous propose d'en choisir une au hasard.
Quel est mon mot préféré? C'est difficile comme question.
Ça paraît simple, mais en fait c'est difficile.
Je dirais raison.
Raison.
Voilà.
Raison.
Raison. J'aime bien les choses qui sont faites quand c'est possible, avec cœur, mais aussi avec raison. Voilà, d'accord, une approche rationnelle.
D'accord.
Voilà, c'est pas très poétique comme mot, mais ça me parle.
Mais voilà, ça vous parle, c'est structuré, c'est avec lucidité, c'est réfléchi.
Réfléchi,
c'est ça qui, pour vous, est important.
Ce qui n'empêche pas d'être impulsif, de temps en temps.
Allez, une deuxième, là, comme ça.
Alors, je constitue mon propre musée Grévin. Quels sont les deux personnages que vous mettez en avant? Alors, je vais plutôt vous parler de mon propre souvenir de mon passage au musée Grévin que de vous dire qui j'y mettrais, parce que ça m'a marqué. Et je me souviens d'être allée au musée Grévin, ça fait déjà longtemps, et d'y avoir trouvé
les personnages
d'un Français qui a marqué notre pays, qui était François Mitterrand, président de la République. et qui m'a marqué, y compris la socialiste que je suis, et pas très loin, Helmut Kohl, qui était donc le chancelier allemand. Et c'était assez marquant pour moi, parce que je suis d'origine française et allemande, et d'avoir ces deux personnages côte à côte, au musée Grévin. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je me souviens que ça l'était et que ça m'a marqué.
Et je comprends, pour vous qui êtes alsacienne, c'est... D'accord, et deux personnages qui pour vous comptent énormément.
Voilà.
Hein, à titre à la fois privé et à la fois dans vos engagements politiques.
Tout à fait.
Alors, on va se donner un petit temps de pause musicale. Vous nous avez choisi un morceau de Nemma, c'est ça ?
Nena.
Nena. Alors, en allemand...
Je vais vous aider.
Oui. alors, en français, c'est ce morceau, c'est 99 ballons, mais en allemand, c'est...
99 Luftballons. Et donc, ça fait la transition avec ce... Je n'avais pas prévu de raconter sur le musée Grévin, mais que je vous ai raconté. J'ai choisi cette chanson qui, donc, date des années 83-84, parce que c'est une chanson que... Quand j'avais 10 ans, donc j'aimais beaucoup, qui est une chanson pop-rock qui a eu pas mal de succès dans ces années-là. C'est sans doute une des rares chansons en allemand qui a réussi à traverser les frontières et qui a été écrite en pleine guerre froide, en pleine époque de tension entre, à l'époque, l'Union soviétique et puis l'OTAN, autour de la crise des missiles notamment. Et j'ai trouvé que finalement, ça a rappelé malheureusement un peu... l'époque que nous vivons aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine et qui montre que la guerre, l'armement produit toujours des conséquences malheureusement désastreuses. Et là, c'est juste l'histoire de 99 ballons de baudruche qui traversent une frontière et que les militaires prennent pour des armes de guerre alors que ce sont de simples pacifiques
et, eux sont
et
sur les dents.
Jolis ballons de baudruche. Et une guerre se déclare à cause de ça. C'est l'ironie de cette chanson.
Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons, dass sowas von sowas kommt.
Le tour de la question, Patrice Rouher.
Eh bien, je partage ce moment avec Audrey Linkenheld, femme politique du Nord, première adjointe à la mairie de Lille et en charge de la transition écologique et du développement soutenable. Audrey, ben, je vous propose, allez, vous avez pris l'habitude de piocher des questions, on vous découvre au travers de ces questions.
Quelle est ma plus grande fierté dans la vie ? Je vous dirai ça quand je serai à la fin de ma vie.
Oh, c'est bien de faire des points.
Oui, mais ça veut dire qu'on a une certaine forme d'exigence.
Oui.
Voilà.
Mais ça fait du bien aussi.
C'est un peu tôt pour répondre à cette question.
Bon. Alors, alors prenez-en une autre.
Bon. Quelle est votre occupation préférée ? Alors, quand je ne suis pas en train de m'occuper de mes activités professionnelles, politiques ou familiales, je dirais que c'est lire.
Voilà. Lire.
Lire, ouais.
Oui. Qu'est-ce que vous lisez ?
De tout. J'aime bien les polars, j'aime bien les romans, j'aime bien les BD, j'aime bien aussi les choses un peu plus, techniques, quoi, sur les sujets qui m'intéressent.
Alors, livre qui vous a marqué, justement, puisque vous êtes venu avec un livre qui vous a particulièrement marqué dans votre parcours de vie, y en a-t-il un, justement ?
Alors, j'y ai réfléchi. Un seul, c'est difficile à dire parce que justement je suis une grande lectrice et que j'aime presque tout en matière de littérature, mais c'est vrai que j'ai gardé un assez fort souvenir de ma découverte d'Émile Zola. Voilà.
Ah oui.
Où vraiment, j'avais, je sais plus, 14-15 ans probablement, et donc j'imagine qu'à l'époque c'était obligatoire de lire Émile Zola, ça doit toujours l'être d'ailleurs, et j'ai lu L'Assommoir d'abord, et c'est vrai que ces histoires-là m'ont marqué parce que c'est à la fois des portraits de femmes, des histoires aussi personnelles qui se mêlent à l'histoire sociale, avec à la fois le rôle du travail, mais aussi la faiblesse de l'homme et de la femme, où on voit que les parcours sont jamais très linéaires. Et je pense que ça a contribué à, on va dire, l'éveil de ma conscience politique, même si je viens moi-même d'un milieu plutôt modeste. Donc, j'ai pas découvert ça à travers le livre, mais je crois que j'ai découvert la mise en récit de tout cela.
Oui.
Et alors, une fois que j'en avais lu un, j'en ai lu toute une ribambelle de Zola, et ça tombe bien parce qu'il en a écrit pas mal.
Bah oui.
Je ne sais pas très franchement si aujourd'hui je serais capable de les lire tous comme je les ai lus à l'époque, mais en tout cas, ils m'ont marqué.
Voilà, c'est l'important. Ils vous ont marqué, ils vous ont nourri. Et puis maintenant, vous passez peut-être à autre chose.
Voilà.
D'accord, ok. Bien, alors, tiens, continuons les questions de cette découverte.
Quel est le jour de l'année calendaire que vous aimez le plus ? Je vais dire l'arrivée de l'été.
D'accord.
Voilà.
C'est quel jour, ça ?
Ouais, ça doit être le 21 juin, si je ne me trompe pas.
Voilà,
voilà, parce que c'est quand même une saison que j'aime bien. Et ici, dans cette région, un peu de soleil, voilà, même si avec le réchauffement climatique, des fois, on se plaint d'en avoir trop.
Peut-être
je trouve que c'est un moment de l'année qui devient appréciable et qui dure encore un peu. Voilà.
D'accord, c'est les beaux jours.
Les beaux jours.
On peut aller sur la côte.
On peut, ou juste profiter de son jardin.
D'accord, ok. Allez, écoutez, je vois que vous y prenez goût, repiochez.
Votre plus grosse frayeur dans votre métier, dans votre engagement ? Je dirais que mon engagement personnel rejaillisse sur mon entourage qui, après tout, n'a rien demandé, qui peut me supporter, dans tous les sens du terme. Mmh. Voilà, mais parce que on sait que dans ces engagements publics, parfois, la frontière est assez fine.
Oui, c'est difficile de faire
Je ne voudrais pas que ça ait une quelconque influence. On a probablement déjà eu un petit peu, que ça ait en tout cas une influence néfaste sur ce qui...
Et vous arrivez à bien compartimenter, justement?
Oui, j'essaie, mais je ne suis pas non plus très, très exposée. Hein. J'ai été députée, mais c'est pas... Voilà, ça peut être une activité exposée, mais ce n'est pas président de la République, soyons clairs.
Néanmoins, quand on a des fonctions électives, on peut être vite happé, parce qu'il y a toujours des bonnes raisons pour être sollicité.
Oui, on peut. Mais solliciter n'est pas en soi, pour moi, une difficulté, mais c'est plutôt Il y a toujours des gens qui sont d'accord avec vous et d'autres qui le sont moins. Et ceux qui le sont moins, parfois, peuvent déborder. Mais m'est arrivé une ou deux fois que ça se rapproche de ma sphère, on va dire, personnelle. Et ça, j'aime pas bien. Parce qu'encore une fois, moi, je suis capable d'assumer. C'est moi qui ai choisi. Mais les autres n'ont rien demandé.
Ouais. C'est ça, oui.
Donc, c'est
oui.
Cette forme de respect-là
qui, oui, c'est le respect de la personne, entre la personne et la fonction. Et une forme de civilité. Ou
exactement.
De...
Ouais, voilà, ouais, ouais, voilà. Ouais. Mais on sait que malheureusement...
Et vous trouvez que c'est la civilité, le respect, c'est quelque chose qui est un peu fragilisé dans notre société ?
Moi, j'en ferai pas une généralité, non. Mais on sait qu'en tout cas, il peut arriver que certains soient moins respectueux ou plus incivils. Ouais. J'en ferai pas forcément une généralité parce que je peux pas dire que j'en ai beaucoup souffert jusqu'ici. Donc, au contraire, les gens sont plutôt assez respectueux de cela.
D'accord. Alors, un objet qui parlerait de vous, ce serait quoi ?
Alors, j'étais venue avec cet objet, mais j'ai déjà un peu parlé du sujet. C'est notre plan climat, justement, la métropole européenne de Lille et de la ville. Donc, pour un territoire qui soit neutre en carbone, résilient et solidaire. J'ai amené cet objet parce que finalement, c'est celui qui m'accompagne au quotidien.
Mais oui.
Dans toutes mes activités, pas seulement politiques d'ailleurs, parce que moi aussi, j'essaye à titre personnel de prendre ma part, y compris à titre professionnel. Donc voilà, c'est vraiment ma feuille de route.
On peut le trouver sur Internet ou...
On peut tout à fait le trouver.
Alors,
on va sur le site de la MEL, donc qui doit être lillemétropole.fr, et en cherchant bien, on trouve le PCAET, le plan climat air énergie territorial.
PCAET, d'accord, qui est
le plan climat, la feuille de route qui accompagne au long des 6 années, 5 avec le Covid du mandat, notre action face au réchauffement climatique sur tous les sujets dont j'ai donné quelques exemples tout à l'heure.
Eh bien, on mettra ces références sur le site, comme ça pour nos auditeurs qui souhaitent aller plus loin. Eh bien, ils auront l'adresse. Alors, vous êtes sur RCF et je voudrais là me faire porte-parole de nos auditeurs en vous proposant quelques questions. Pour vous, qui est Dieu ? Vaste question, direz-vous.
J'ai droit à un joker ?
Si vous voulez.
Allez, joker.
D'accord. Alors, chez RCF, notre slogan, c'est « La joie se partage ». Et ben, j'espère que vous aussi vous avez des joies, que semaine dernière, cette semaine ou depuis le début de l'année, s'il y avait une petite joie ou une grande joie là qui vous a apporté de la satisfaction, vous pensez à quoi ?
Alors c'était une grande joie, mais malheureusement de courte durée, quand Yilmaz Burak a marqué un but en Ligue des Champions pour le LOS contre Chelsea, malheureusement juste après Chelsea a marqué, et finalement nous n'avons pas été qualifiés. Mais c'était quand même une grande joie au milieu de 500 000 spectateurs,
vous
je dirais, puisque j'ai eu la chance d'être dans le stade.
Ah oui.
Et donc c'était quand même un grand moment sportif.
Alors quand vous regardez l'avenir... qu'est-ce qui vous fait espérer aujourd'hui ?
Ça vous surprendra peut-être, mais je continue de penser que les hommes et les femmes peuvent rendre ce monde meilleur. Et pourtant, on est dans un contexte qui plaiderait plutôt pour le contraire, ou en tout cas pour être défaitiste, mais... voilà, moi je continue d'y croire et je pense que tous les jours on a des petits signes qui nous indiquent qu'on peut continuer d'y croire et moi j'ai envie qu'on garde l'espérance de ce monde meilleur. Je pense que notre monde, malgré ses inégalités sociales, environnementales, ses guerres, malheureusement, je pense que ce monde est déjà meilleur que celui qu'on a pu connaître il y a des millénaires ou il y a des siècles.
Et c'est quoi ces petits signes qui vous font justement espérer que le monde peut être meilleur demain ?
Mais je pense que c'est d'abord les progrès qu'a fait le monde. Oui. Si on prend la peine, je parlais de raison ou on parlait de lucidité tout à l'heure, de regarder avec un peu de lucidité comment on vit aujourd'hui et comment vivaient nos ancêtres. Je pense qu'avec lucidité, on peut se dire que quand même globalement, pour beaucoup... les choses vont mieux, ça ne veut pas dire qu'elles vont mieux pour tout le monde, et c'est bien ça le sujet, c'est la raison pour laquelle il faut continuer à lutter contre les inégalités et pour la justice. Et puis après, il y a Ce qu'on voit à Lille là, depuis quelques jours maintenant avec cette guerre en Ukraine, nous avons plus de 3000 Lillois ou habitants de la métropole qui se sont manifestés auprès de la ville pour dire qu'ils étaient prêts à accueillir des familles ukrainiennes chassées de chez elles du jour au lendemain. On a déjà 400 familles qui ont été accueillies donc chez l'habitant. Hein. Nous en hébergeons aussi à la ville de Lille, dans des résidences qui sont à nous, mais l'essentiel, c'est chez l'habitant. Et ça, j'ai envie de dire, ça donne de l'espoir. Ça montre que, au-delà d'un certain nombre de discours qu'on peut entendre aujourd'hui, il y a de la fraternité entre les hommes. Et c'est ça qui permettra, je l'espère, de rendre le monde encore meilleur.
Merci Audrey Linkenheld. Je rappelle à nos auditeurs, première adjointe à la mairie de Lille. Vous terminez sur une note positive, optimiste, sur en pointant la solidarité entre les personnes et qui se révèle en particulier en ce moment. Voilà des grands signes d'espérance pour le temps qui vient. Merci à vous.
Merci à vous.
Thank you.